Bonsoir ou peut-être bonjour. Ici à Paris, il est maintenant pile 19h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Enquête, des faits, des commentaires, des reportages, c'est RFI Soir tout de suite, le journal. Et l'accord de trêve qui doit entrer en vigueur à Gaza demain matin, sauf problème de dernière minute. Des milliers de personnes qui protestent actuellement à Washington contre l'investiture de Trump après-demain. Et le football en France, le Paris Saint-Germain qui vient de remporter une 4e victoire consécutive en Ligue 1 en battant Lens sur le score de 2-1.
RFI.
L'attente touche à sa fin pour les Israéliens et les Palestiniens qui attendent depuis longtemps la libération de leurs proches. L'accord sur une trêve à Gaza et les libérations d'otages doit entrer en vigueur dans une douzaine d'heures maintenant. L'Égypte annonce que 1890 prisonniers palestiniens seront libérés par Israël dans la première phase de l'accord. Et pendant ce temps-là, à Tel Aviv, des familles attendent avec impatience la suite des événements sur ce qui est devenu la place des otages, Nicolas Falaise.
Oui, la place s'est remplie peu à peu, comme tous les samedis soirs, ou plutôt comme un samedi soir différent des autres. Différent, m'ont dit ces trois Israéliennes rencontrées face à un mur de portraits, l'un de ces murs de visages que l'on voit partout en Israël depuis 15 mois. Parmi ces photos des otages, les trois amies expliquent qu'elles cherchent ceux qui apparaissent sur la liste des 33 personnes libérables dans la première phase de l'accord, sans qu'on sache s'ils sont encore en vie. Espérons qu'ils ne reviendront pas dans des sacs, lâche l'une des trois amies, visiblement inquiète lorsqu'on évoque le sort des deux plus jeunes otages, âgés seulement de 2 ans et 5 ans. Même angoisse, mêlée d'espoir, chez Tom, un ingénieur de 36 ans, présent lui aussi ce soir sur cette place de Tel Aviv.
Well, I hope to see live hostages.
J'espère voir des otages en vie et la fin de la guerre, mais nous n'en savons rien. C'est un processus qui va durer un mois et demi, et ensuite personne ne sait ce qui va se passer avec la deuxième phase de l'accord. Il faut qu'ils ramènent tout le monde, les vivants et les autres. C'est difficile depuis presque un an et demi. Les gens ont besoin de guérir de cela.
Ce soir, des proches d'otages doivent prendre la parole ici, comme tous les samedis soirs depuis octobre 2023. Mais demain, à 8h30 locale, les armes doivent en principe se taire à Gaza. Et un long processus de libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens doit débuter.
Oui, les armes doivent se taire, vient de dire Nicolas Falaise. Cela dit, dans l'attente du début de cette trêve, l'armée israélienne a poursuivi ses frappes sur Gaza, qui ont fait plus de 120 morts depuis mercredi. Ce matin encore, des frappes ont ciblé les camps autour de Nuseirat et de Khan Younes, et il fallait s'y attendre, selon Léa Landman, politologue, ancienne directrice du programme de diplomatie à l'université Reichmann de Tel Aviv.
C'est logique, en fait, d'un point de vue militaire, en se disant que maintenant, tout va être arrêté pendant 6 semaines au moins. Chaque fois avant un cessez-le-feu, l'idée est d'essayer d'éliminer un maximum d'infrastructures, de souterrains, de nids de terroristes du Hamas avant le cessez-le-feu. Le but, c'est vraiment d'affaiblir au maximum les cellules du Hamas qui sont actives, puisque après, ils pourront plus le faire. L'objectif militaire de détruire le Hamas n'est pas atteint. En même temps, les structures militaires du Hamas sont détruites. Ça, c'est clair, net, eux le savent, eux le disent, mais ils peuvent se reconstruire. S'il y a un cessez-le-feu, ça laissera au Hamas l'opportunité de se réorganiser. Déjà ce matin, le Hamas a annoncé qu'il va se mettre à disposition en fait sur toute la bande de Gaza, où il pourra. Dès que le cessez-le-feu se met en marche, ça veut dire qu'il reprend en fait des fonctions de police quelque part. Leur fonction maintenant sera en fait de monitorer tout ce qui se passe à Gaza et d'aider les Gazaouis à rentrer dans le nord, mais surtout faire en sorte qu'on sache qui est le boss de nouveau à Gaza, en tout cas pendant le cessez-le-feu.
Par ailleurs, le président libanais souligne l'urgence d'un retrait israélien du sud de son pays. Joseph Aoun demande l'application de l'accord de cessez-le-feu conclu en novembre avec le Hezbollah. Et de son côté, le chef de l'ONU espère un avenir plus prometteur, dit-il, au Liban. Plus de 200 000 réfugiés syriens sont rentrés chez eux depuis la chute d'Assad. Le chiffre vient d'être donné par l'ONU. Depuis 2011, ce sont des millions de Syriens qui avaient fui la guerre civile, la crise économique et humanitaire pour trouver refuge dans les pays voisins et au-delà. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, assistera à l'investiture de Donald Trump. Elle aura lieu lundi à Washington. Or, la tradition veut que les dirigeants étrangers n'assistent pas aux investitures des présidents américains. Mais Giorgia Meloni a déclaré avoir été invitée par Donald Trump. Et en ce moment même, plusieurs milliers de personnes, en majorité des femmes, sont rassemblées à Washington justement pour protester contre le futur président. Vincent Souriot, vous êtes sur place pour RFI et les contestataires sont de tous horizons.
Oui, coalition d'organisations de la société civile rassemblée dans le calme et qui agrège toutes les peurs du mouvement progressiste. Le droit des femmes, effectivement, le recours à l'avortement dans le viseur de Donald Trump et de la Cour suprême. Le climat, la reprise des forages, l'augmentation de la production de pétrole et de gaz. La mainmise d'Elon Musk sur l'administration américaine et, comme des manifestants nous le disaient tout à l'heure, le règne du big business, des grandes entreprises pendant les quatre années qui viennent. On a aussi vu des pancartes pro-palestiniennes, slogans de soutien à toutes les minorités, à la communauté LGBT que la plupart des participants ici pensent menacée, et de manière générale une profonde inquiétude au sujet de la démocratie américaine. Personne dans ce cortège n'oublie qu'il y a 4 ans, ici même à Washington, les partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole, tenté d'obtenir par la force l'annulation de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, oui, il a bel et bien été réélu démocratiquement, mais la foule présente aujourd'hui ne veut pas lui laisser carte blanche et compte, nous dit-on, le placer sous surveillance. Mais cela sonne, Philippe, un peu comme une rengaine désespérée compte tenu de la victoire sans appel de Donald Trump face à Kamala Harris.
Vincent Souriot à Washington, où il est 13h passé de 6 minutes. En Tunisie, ce sont plusieurs centaines de sympathisants du parti Destourien Libre qui revendiquent l'héritage des autocrates Bourguiba et Ben Ali qui ont manifesté. Ils réclamaient la libération de leur dirigeante, l'opposante Habib Moussi. Cette critique du président Kais Saied et du parti islamo-conservateur d'opposition Ennahdha est en détention depuis son arrestation. C'était en octobre 2023, devant le palais présidentiel, où, selon son parti, elle était venue déposer des recours contre des décrets présidentiels, justement. En août dernier, à Calcutta, un crime avait suscité l'indignation partout en Inde où les violences sexuelles à l'encontre des femmes sont très courantes. Aujourd'hui, un tribunal indien a déclaré un homme coupable du viol et du meurtre d'une médecin. Le procès a fait l'objet d'une procédure accélérée, le système judiciaire indien étant habituellement lent. Les plaidoiries se sont terminées il y a moins de 10 jours. En France, une nouvelle pollution de grande ampleur révélée, le chlorure de vinyle monomère, élément chimique utilisé notamment dans les canalisations en PVC, classé cancérogène. Certains pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 1987 et il continue, Jeanne-Richard, de contaminer l'eau du robinet de centaines de milliers de personnes en France.
C'est un nouveau scandale sanitaire majeur pour le chercheur Gaspard Lemaire qui publie cette semaine une étude pour dénoncer à la fois le rôle des industriels qui ont tenté de dissimuler la toxicité du PVC produit jusque dans les années 1980 et aussi l'inertie des autorités européennes et françaises qui savaient et qui sont coupables selon lui de négligence fautive. Le procédé de fabrication du PVC a depuis évolué mais rien qu'en France, jusqu'à 340 000 km de canalisation d'eau potable, soit un tiers du réseau ont été installés avec un plastique qui relargue du chlorure de vinyle monomère. Cette substance est dangereuse pour les personnes qui boivent l'eau contaminée, même à très faible dose, et cause notamment des cancers du foie. Mais l'Union européenne puis la France ont tardé à s'emparer de la question. Il faut dire que rien que dans le pays, changer les canalisations coûterait des milliards d'euros. Aujourd'hui, au moins 600 000 Français sont toujours exposés à des doses supérieures au seuil autorisé, en particulier dans les campagnes. Plusieurs recours en justice ont déjà été déposés par des particuliers pour faire reconnaître la responsabilité de l'État.
Et puis, pour ne pas être censuré par le Parti socialiste, François Bayrou a renoncé à la baisse du nombre d'enseignants, à supprimer donc, Laurence Théo.
Le fait que le gouvernement renonce à la suppression de 4000 postes d'enseignants dans le budget 2025, Sophie Venetites, secrétaire générale du SNES-FSU, ne peut que s'en réjouir. Mais selon elle, même si c'est une avancée, ce n'est pas suffisant.
On a fait nos calculs, on a sorti la calculatrice. Pour retrouver le taux d'encadrement de 2017, il faudrait créer près de 10 617 emplois d'enseignants et il faudrait donc plus de 10 000 emplois. Donc c'est là qu'on voit que ces dernières années ont largement contribuer à dégrader le service public d'éducation et qu'il va falloir maintenant un effort conséquent qui va au-delà de l'annulation des suppressions de postes.
Le ministère avance l'argument d'une baisse démographique à la rentrée de septembre 2025. Pas de quoi déstabiliser la syndicaliste.
On va effectivement avoir moins d'élèves dans les collèges et les lycées. Il faut surtout que ce soit l'occasion, en créant davantage d'emplois de professeurs, de vraiment diminuer les effectifs dans les classes. Parce que là, aujourd'hui, il faut quand même rappeler que la France détient un triste record. C'est le record des classes les plus chargées d'Europe au niveau collège. Donc, il faut vraiment améliorer les choses. Ça passe par des créations d'emplois.
Et si on prend l'exemple du collège, la France compte entre 26 et 30 élèves par classe.
Ainsi va le monde. Vous écoutez Radio France Internationale. 19h. Les sports à présent à 19h10, Babacar Diarra, le football, le Paris Saint-Germain s'est donc rassuré avant son match décisif de Ligue des Champions face à Manchester City.
Sans Hakimi, sans Dembélé, sans Marquinhos, les leaders de Ligue 1 sont allés renverser le Racing Club de Lens. Une victoire 2-1 grâce à des buts de Fabian Ruiz et Bradley Barcola en réponse à l'ouverture du score de Mbala Zola. Paris prend provisoirement 10 points d'avance sur l'OM qui reçoit Strasbourg demain soir.
Et la 18e journée se poursuit avec deux autres rencontres.
En ce moment, le derby breton Rennes-Brest et puis à 20h05 temps universel, Lyon 6e reçoit Toulouse 8e. Les Rodaniens sont dans le dur après une défaite en championnat à Brest, enchaînée par une piteuse élimination en Coupe de France mercredi face aux amateurs de Bourgoin-Jallieu. Une tâche dans l'histoire du club dont ne sont pas fiers les coéquipiers du défenseur sénégalais Moussa Niarkaté.
C'est une honte. On a sali le club. Et pas que nous. Il y a des gens qui sont fans de ce club depuis des décennies. Ils aiment ce club parce que leurs parents leur ont transmis ça. Il y a des salariés qui sont pas rémunérés autant que nous on l'est. Et que eux, ils ont aussi la tête très lourde. Donc en fait, cette responsabilité, nous dépasse nous, joueurs. Et c'est ça, à un moment donné, il faut aussi se rappeler les choses, ces choses-là. Et on doit accepter ce qu'on a fait en réagissant dès samedi et rétablir l'honneur de notre honneur personnel et l'honneur de l'Olympique Lyonnais. On va essayer de trouver toutes les solutions possibles parce qu'on est dans l'obligation de trouver des solutions et ceci très rapidement au vu de nos objectifs.
Le défenseur lyonnais Moussa Niarkaté.
En tennis, Gaël Monfils poursuit sa route à l'Open d'Australie. Il verra donc la deuxième semaine après sa grosse performance au troisième tour.
À 38 ans, le Français a décroché l'une de ses plus belles victoires en éliminant Taylor Fritz, numéro 4 mondial et finaliste du dernier US Open. Monfils s'en est sorti en disposant de l'Américain en 4-7, 3-6, 7-5, 7-6, 6-4. Le Parisien a réalisé le match parfait. C'est seulement la deuxième fois de sa carrière qu'il bat un membre du top 5 mondial dans un grand Chelem.
Aujourd'hui, j'ai réussi à faire une, tu vois, à l'emmener dans un jeu pour qu'il se sente moins confortable. Si tu lui donnes beaucoup de rythme, forcément, il prend confiance et il tape très fort. Et aujourd'hui, j'ai réussi à bien mixer entre des balles un peu différentes avec les effets, les variations aussi de mes positions. C'est pas tous les jours où on arrive, tu sais, à appliquer une tactique, et même lui il jouait bien et quand même de continuer et toi sur des coups j'étais courageux, donc j'étais content, toi, d'aller chercher mes lignes dans le tie break, toi je me suis fait un peu plus violence, ouais, donc je suis content d'avoir accompli un gros match, quoi, tu vois, un gros match, donc je suis content, quoi.
Gaël Monfils au micro d'Arthur Franc à Melbourne. En huitième de finale, il affrontera l'Américain Ben Shelton dans la nuit de dimanche à lundi. Auparavant, la nuit prochaine, l'autre survivant français, Hugo Humbert, affrontera l'Allemand Alexander Zverev pour le rejoindre en huitième.
Voilà pour les sports. Après-demain, Donald Trump retrouvera le bureau ovale de la Maison-Blanche. Le 47e président des États-Unis va se retrouver à la tête d'une Amérique en décomposition, selon Romuald Sciorra, ce directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, de l'IRIS, qui vit aux États-Unis, signe un livre qui a pour titre « L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence ». Sur cet essai sur une Amérique au bord de l'implosion, il en dit plus à Michael Ponge.
Bonjour Romuald Sciorra.
Bonjour.
Déliquescence, décomposition, désunion, dégradation, ce sont là quelques-uns des termes que vous employez pour décrire des États-Unis qui n'existeront plus sous leur forme actuelle à la fin du siècle. Le ver, Romuald Sciorra, semble dans la pomme, dans sa constitution même, l'Amérique comporte ce qui est en train de la détruire. C'est une des thèses que vous défendez au début de votre livre.
Aujourd'hui, l'État fédéral américain est entré dans un état de déliquescence qui est presque irréversible. Et effectivement, le ver était dans la pomme, et je dirais depuis la création même des États-Unis, plutôt depuis l'élaboration de la Constitution en 1787. Dès ce moment-là, deux clans se sont opposés les fédéralistes et ceux qui étaient plus, on pourrait les appeler les confédéralistes, qui étaient pour une plus grande autonomie des États. Et cette dualité s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, où nous retrouvons depuis maintenant une vingtaine d'années avec un État fédéral discrédité. Une partie de la population n'a plus vraiment foi en la Constitution et de nombreux gouverneurs, républicains comme démocrates, sont un petit peu en train de mener une forme de fronde face aux différents gouvernements qui se succèdent.
C'est ainsi que l'on glisse, écrivez-vous, d'une démocratie vers une démocrature. De quoi s'agit-il ?
Écoutez, c'est très simple et cela peut se comprendre. Je ne dis pas que c'est ce que je souhaite pour les États-Unis, même si je pense que d'ici 2-3 ans, les États-Unis ressembleront plus à la Hongrie de Viktor Orban qu'à l'Amérique de Kennedy ou d'Obama. Néanmoins, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Lorsque une population a le sentiment que l'État, qui est censé le protéger, est entré en déliquescence, lorsque les infrastructures sont très souvent en ruine, lorsque les routes ressemblent à celles de pays en développement, lorsque le système de l'éducation est devenu totalement faillible et où il y a une inégalité totale, etc., etc., sans parler du système de santé, etc. Donc beaucoup prennent peur et on peut les comprendre. Et la tentation de l'homme fort est compréhensible et c'est pourquoi...
Qu'un certain Donald Trump arrive.
Et voilà, et c'est pourquoi tant de mes concitoyens américains ont voté pour Donald Trump et qu'il est aujourd'hui une véritable icône.
Pour autant, Romuald Sura, la guerre civile que vous évoquez comme une possibilité, vous n'y croyez pas, vous ?
Non, non. Je ne suis pas un de ces alarmistes qui pensent que nous nous retrouvons sous une dictature à la Poutine d'ici 4 ans ou qu'une guerre civile d'une ampleur comme celle du film Civil War, qui est un film impressionnant, pourrait avoir lieu prochainement. Non. Premièrement, en ce qui concerne la dictature, la République américaine est encore assez résistante et imposer un régime à la Poutine serait difficile en l'espace de quelques années. Si plusieurs présidences style Trump se succédait, oui, pourquoi pas, mais alors qu'il est, non. Mais sauf sursaut des élites qui pourraient inverser la tendance, je pense que donc nous nous dirigeons vers un divorce, mais un divorce que je vois plutôt se dérouler sur le modèle tchécoslovaque ou au pire sur le modèle soviétique. Je ne crois pas au scénario des guerres yougoslaves, tout simplement pour la simple et bonne raison que lorsque l'on parle de guerre civile, on parle d'armée professionnelle qui s'affrontent, comme lors de la guerre civile qui a eu lieu aux États-Unis entre 1861 et 1864. Aujourd'hui, l'armée fédérale demeurerait dans sa très large majorité fidèle au gouvernement fédéral. Donc, quelle armée pourrait s'y opposer ? Comme je vous le disais, un divorce...
Pas une guerre civile, mais un divorce de la part notamment de certains États. Vous citez par exemple la Californie ou bien les États du Sud-Ouest à forte majorité hispanophone.
Oui, alors, ce divorce pourrait revêtir de différentes formes. Peut-être reviendrons-nous plutôt à une république semblable à ce qu'elle était dans ses premières années, c'est-à-dire à une forme de république confédérale, un petit peu comme le Québec au Canada. Donc ça, c'est l'option numéro une. L'autre scénario, l'autre option, serait un divorce plus franc, c'est-à-dire donc une partition des États-Unis avec des républiques indépendantes. Je pense à la Californie, je pense à des États, effectivement, encore une fois, du Sud-Ouest, New York, pourquoi pas.
Merci Romuald Sura.
Merci à vous.
Romuald Sura, auteur de L'Amérique éclatée aux éditions Armand Collin, que vous retrouverez lundi en fin d'après-midi sur RFI. Cela pour l'édition spéciale concernant la prestation de serment de Donald Trump.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Et l'actualité des médias, avec ces accords que viennent de nouer deux grandes agences internationales de presse, à savoir l'AFP, l'agence France Presse, et Associated Press, avec des acteurs de l'intelligence artificielle. Amaury de Rochegonde, commencez par nous donner plus de détails.
Oui, ce sont deux accords qui posent question, car ils permettent de crédibiliser les réponses de ces intelligences artificielles génératives, sans que soit clairement posée la question du droit moral de leurs auteurs. Le premier en date est celui de l'AFP avec Mistral, la championne française de l'IA, qui va pouvoir disposer des 38 millions de dépêches de l'agence depuis 1983. Sur le papier, c'est un accord qui ne présente que des avantages. Mistral AI, fondée il y a 2 ans, bénéficie de l'expertise d'une des 3 grandes agences de presse mondiale en 6 langues. Sa solution, le chat, va pouvoir conforter ses réponses avec un contenu vérifié, sourcé, ce qui constitue un avantage compétitif, alors que d'autres grands médias européens comme Axel Springer, El País ou Le Monde ont déjà signé des accords avec ChatGPT. Mistral assurera une source de revenus dynamique pour l'AFP qui se met ainsi à l'heure de l'IA.
Oui, Mistral qui est aussi une start-up qui ressemble beaucoup à ses cousines américaines.
C'est vrai, elle a d'ailleurs renoncé à une logique d'open source pour passer un accord privé l'an dernier avec Microsoft, qui est entré dans son capital et qui est aussi actionnaire à 49% d'OpenAI. Surtout, Mistral a beaucoup pesé sur le gouvernement français lors des négociations sur l'IA Act l'an dernier pour que l'innovation européenne ne soit pas freinée par le droit d'auteur. Or, les journalistes, les éditeurs ont-ils donné leur accord pour que les dépêches soient utilisées afin de nourrir les réponses d'une solution technologique? N'y a-t-il pas un risque de voir l'outil se substituer aux médias eux-mêmes sur ces plateformes?
Amaury, venons-en à cet autre accord conclu celui-là avec Associated Press et Gemini de Google.
Oui, ce qui montre bien que la crédibilisation par des contenus d'actualité fiables est cruciale pour ces plateformes. Apple vient d'ailleurs de désinstaller son outil d'IA de résumé d'actualité après des erreurs réalisées à partir de contenus de la BBC qui s'en est plaint. AP, la Associated Press, avait déjà un accord avec OpenAI sur ChatGPT depuis 2023. Aux États-Unis, le New York Times, avec d'autres éditeurs, ont intenté un procès à cet acteur de l'IA pour violation du droit d'auteur. Il chiffre le préjudice à plusieurs milliards de dollars. C'est aussi la logique des organisations professionnelles de la presse en France qui veulent obtenir un accord collectif. Le risque peut être, selon certains, l'existence même de la presse et pour une agence comme l'AFP de dépendre de ses revenus nouveaux qui, comme le montre la décision de Meta de renoncer au fact-checking, peuvent s'arrêter du jour au lendemain.
Et la difficulté à faire circuler l'information maintenant ce procédé bien connu des entreprises pour tenter de faire taire la presse, les procédures Bayon. Il s'agit de multiplier les actions en justice pour intimider, dissuader les journalistes et les défenseurs des droits, d'enquêter ou de révéler des informations sensibles. C'est ce qui arrive à un ancien journaliste de RFI, Nicolas Feldman.
5 janvier 2017, alors que le journaliste Nicolas Vescovacci est en pleine écriture d'un livre-enquête sur l'homme d'affaires Vincent Bolloré, un huissier frappe à sa porte pour lui remettre un courrier.
Je dépiote cette enveloppe et je vois sur la troisième page un montant, 700 000 euros, plus 50 000 euros. Et je me dis, mais de quoi s'agit-il? Vivendi m'accusait d'avoir mis en péril la bonne marche de l'entreprise à travers des SMS et des mails que j'avais envoyés pour faire simplement mon travail, c'est-à-dire le contradictoire dans une enquête. Et il me réclamait 750 000 euros de dommages et intérêts.
Dans ce dossier, le groupe Vivendi sera finalement condamné pour procédure abusive. Mais l'homme d'affaires et ses sociétés vont engager deux autres actions en diffamation, celle-ci contre les auteurs du livre, avant de se désister à quelques semaines de l'audience.
Au final, Vivendi ou Vincent Bolloré a tenté trois procédures contre moi. Trois procédures, ça veut dire quasiment 6 à 7 ans de pression judiciaire sur vos épaules et des coûts financiers de plusieurs milliers d'euros. C'est ça une procédure Bayon. C'est une intimidation concrète et précise sur un journaliste, un journal, une maison d'édition. C'est faire peur pour que les autres ne s'engagent pas sur l'enquête. Et Vincent Bolloré est un adepte des procédures Bayon.
Contacté, l'avocat de Vincent Bolloré n'a pas répondu à cette affirmation. Toujours est-il que ce type de procédure se multiplie, observe Nicolas Vescovacci, par ailleurs membre du collectif de journalistes Informés n'est pas un délit.
On n'imagine pas le nombre de procédures qui sont intentées pour des journalistes qui enquêtent par exemple en Bretagne sur le système agroalimentaire français. Tout ça pour limiter la sortie d'informations qui sont d'intérêt général.
C'est justement pour limiter le recours à ces procédures judiciaires abusives qu'une directive européenne a été adoptée en mars 2024. Didier Lec, avocat au barreau de Paris spécialisé dans le droit de la presse.
Il y a maintenant une directive européenne qui vise à mettre un certain nombre de dispositifs de protection pour ce qui est des procédures les plus abusives. Par exemple, que celui qui a initié la procédure supporte les frais de justice et puis qu'il soit condamné à couvrir les frais de procédure, pour que celui qui tente de bâillonner, pour reprendre l'expression, ait lui-même à gérer une petite prise de risque.
Encore faut-il que les États membres de l'UE transposent cette directive européenne dans leur droit national. Ils ont jusqu'à 2026 pour le faire. Certains avocats pointent déjà les limites de ce texte, puisqu'il ne concerne pour le moment que les actions en justice lancées devant des tribunaux civils et non celles engagées au pénal, qui représentent pourtant l'écrasante majorité de ces procédures. procédure Bayon.
Nicolas Feldman, alors qu'il est 18h passé de 24 minutes en temps universel.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
RFI Soir qui vous emmène maintenant au Maroc, à Agadir, où Record Zaman a ouvert en 1967 et à l'époque, ce fut le premier magasin de disques de la ville. Le fils du fondateur, Amin Akdim, 30 ans, est aujourd'hui à la tête de ce coffre à trésor musical. En parallèle, il développe une activité de DJ, il s'emploie à numériser des enregistrements rares de musique yéménite, soudanaise, égyptienne et bien sûr marocaine. Agadir, le reportage de François Humeux Ferketachi.
Situé au centre du vieil Agadir, le magasin fait à peine 20 mètres carrés, mais il paraît beaucoup plus grand. Du sol au plafond, des vinyles allant des années 40 à aujourd'hui décorent les murs et garnissent les étagères. De Billy Oceans à Ray Charles, en passant par AC/DC ou Farid El Atrache, on retrouve tous les styles. Amin Akdim a repris le magasin de son père en 2017.
In the store you can find some music.
Dans ce magasin, vous pouvez trouver de la musique d'Inde, de la musique classique égyptienne, de la musique du Brésil, du hip-hop marocain, du funk, du disco.
Assis à son bureau au centre de la petite pièce, il collecte et classe toute cette musique sur son ordinateur. Il est fier de sa collection unique de musique arabe.
Je veux conserver cette mémoire au Maroc. La plupart des gens ne voient la musique marocaine que comme de la musique traditionnelle. Mais il y a de la musique électronique, du groove, de la disco. C'est ce que j'essaye de partager avec les gens dans le monde.
Parmi ces milliers de vinyles et ces centaines de cassettes, quelques perles rares.
And I keep it for myself.
Maintenant, je les garde pour moi. C'est un trésor. Ça coûte très cher. Il y a vraiment une différence entre les éditions originales et les rééditions. Et puis pour moi, ça me rappelle mon père.
D'une valise bien cachée à l'arrière du magasin, il sort un vinyle du groupe de rock engagé des années 70, Nassel Khiwan.
Regardez, il a été disque d'or en 1973.
Ou encore, un album d'Aussi Bizarre, le groupe britannique d'afropop des années 70, formé par des Ghanéens et des Caribéens. Mais ce qui le passionne le plus, c'est la musique enregistrée dans les studios de Casablanca dans les années 70.
Il y a Izenzaren, c'est un groupe berbère des années 70 très connu. Ils ont sorti leur album à Casablanca.
En plus de numériser et classer cette musique, Amin Akdim est également DJ. Il collabore régulièrement avec le collectif français Radio Flouka pour remettre au goût du jour toute la diversité de la musique marocaine. François Imferkataji, de retour d'Agadir, RFI.
Autre musique, autre chanson, celle de Morane, disparue il y a 7 ans, à l'âge de seulement 57 ans. Un spectacle musical lui rend hommage actuellement au Théâtre Essaillon à Paris.
Dors les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres.
Ce spectacle est signé par Christelle Kern, qui interprète les plus grands succès de la chanteuse. Et il a pour titre ce spectacle, Mots d'amour.
Le spectacle s'appelle Mots d'amour, M-A-U, puisque c'était le surnom de Morane. C'est un hommage à l'artiste Morane. Et nous avons mis un A accent circonflexe sur le A de amour, comme l'âme, l'âme de Morane qui est avec nous, Mots d'amour.
On danse les uns avec les autres.
Morane, c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait les gens, qui aimait les autres. C'était une épicurienne. Elle avait un sacré tempérament. C'était quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait. Elle était extrêmement précise, très perfectionniste. Oui, une sacrée personnalité. Et c'est justement ce qui m'attire chez elle, peut-être parce que nous avons sans doute cette similitude aussi.
Autre similitude, elle est physique cette fois. Les traits et le regard de Morane semblent partagés par Christelle Kern.
J'en suis étonnée à chaque fois qu'on me le dit. Tout simplement parce que je suis vraiment moi-même. Je n'incarne personne. J'interprète juste un magnifique répertoire avec ma voix, avec mon physique, avec ma manière de chanter. Dans ce cas-là, c'est formidable. Si on a une espèce de fantôme magique et vocal qui plane sur ce spectacle, alors c'est fabuleux.
Mots d'amour est donné au Théâtre Essaillon à Paris tous les jeudis, vendredis, samedi. Christelle Kern est accompagnée au piano par Laura Strubel et au violon par Caroline Singer.
Tout à l'heure sur RFI,
le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Bruno Faure.
Nous recevons le patron des patrons du Cameroun, Célestin Tawamba, fondateur d'un grand groupe dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Engagé pour le développement de son pays et de ses entreprises, il appelle à des réformes profondes de la gouvernance en Afrique.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI. Le débat africain, Namori Dosso.
L'abrogation de la loi d'amnistie crispe les débats au Sénégal. Cette loi votée sous le régime de Macky Sall doit-elle être abrogée ? Après plus de 15 mois de guerre, Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages. Quel avenir entre les deux parties ?
Le débat africain, Namori Dosso.
Tout à l'heure, à partir de 22h10 TU.
RFI.